La première lecture que nous ferons, c'est dans l'évangile de Marc au chapitre 16 et au verset 15. Marc, chapitre 16, verset 15. Puis Jésus leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. » On peut tous dire Amen. Avez-vous déjà entendu parler de quelqu'un qui, après l'imposition des mains, a été guéri? Question, Lucas. Oui. Est-ce qu'il y a des gens ici qui, après l'imposition des mains, ont été guéris? Moi, je peux lever la main. Après l'imposition des mains, la prière à Jésus, avoir été guéri. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont déjà entendu de la part de missionnaires, eh bien que des missionnaires avaient été empoisonnés, le puits, leur eau avait été empoisonnée, et les sorciers qui avaient préparé tout ça avaient prévu qu'ils mouraient et il ne s'est rien passé. Les breuvages mortels n'avaient eu aucun effet. Monsieur Bordeneuve nous en parlait, et nous savons que la parole de Dieu est vraie dans ce domaine aussi. Ils saisiront des scorpions, des serpents, etc. Même pas peur. C'est Paul, dans la parole de Dieu, il se met à enlever des broussailles pour faire un feu, et il y a une vipère qui vient, qui s'accroche à sa main et qui le mord. Tout le monde s'attendait à le voir enfler et mourir, et puis voilà, qu'il ne se passe rien. Et etc., etc. Tout ce qui est dit là, c'est vrai. C'est la parole de Dieu, et Dieu ne ment pas. Vous êtes d'accord? Est-ce qu'il y a des gens qui croient ce qui est écrit là? Que si on croit qu'on est baptisé, on sera sauvé. Qu'on est sauvé même. Il y a des gens qui savent qu'ils sont sauvés. Un jour, j'ai posé la question à un jeune. On était en voiture à aller à un camp, et en parlant, j'ai dit « Est-ce que tu es sauvé ?» Il me dit « Je ne peux pas savoir. » Je dis « Ah bon ?» Il me dit « Oui, c'est de l'orgueil que de dire « Je suis sauvé. » Je dis « Ah bon ?» Et je dis « Alors, il y a beaucoup d'orgueilleux dans la Bible. Hein » Des gens qui disaient « Moi, je sais où je vais. Je suis sûr. » Qui prêchait. Paul prêchait, il était plus convaincu que beaucoup. Plus sûr que lui, il n'y en a pas eu beaucoup. Hein. Paul, convaincu. J'ai achevé la course, j'ai combattu le bon combat, je m'en vais au ciel. Voilà. La parole de Dieu est la vérité. L'ordre de mission, c'est aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Le texte original a dit à toutes les ethnies, toutes les nations, toutes les ethnies. Amen. On fait une deuxième lecture dans Apocalypse chapitre 7. Et au verset 9, dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, chapitre 7 et verset 9. Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône, et des vieillards, et des quatre êtres vivants, ils se prosternaient sur leur face devant le trône, et ils adorèrent Dieu en disant « Amen ! La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen !» Et là, on a quelque chose de merveilleux, une vision prophétique, l'annonce, la déclaration de Dieu, quelque chose que Dieu donne à un homme de voir, l'apôtre Jean, il voit dans cette vision, cette vérité, c'est qu'à la fin des temps, quand Jésus aura récupéré son Église, il y aura dans le ciel des peuples de toute nation, de toute tribu, de toute langue. La mission qui avait été donnée va être accomplie. Et nous, nous sommes au milieu. Entre l'ordre de mission et la fin, quand la mission est accomplie. On est au milieu. Nous sommes appelés à être des conquérants. Est-ce que vous réalisez cela? Est-ce qu'il y a des hommes, des femmes qui se sont engagés avec le Seigneur Jésus, qui sont là cet après-midi, qui ont donné leur vie au Seigneur, qui ont cru à lui et qui se savent sauvés? Pas par leur mérite, mais à cause de leur foi. Je suis sûr qu'il y en a, je vous connais pour la plupart, et si je ne vous connais pas, je l'espère, je le souhaite. Savez-vous que l'appel du Seigneur, il est clair. Le monde entier doit être évangélisé. Le monde entier est concerné par le salut. Dieu veut sauver tous les hommes. Et il dit qu'à la fin, il y aura des hommes et des femmes sauvés de tout peuple, de toute nation, de toute tribu, toute ethnie, de toute langue. De toute langue qui se retrouveront dans le ciel. Et c'est nous, c'est à nous qu'il incombe de travailler à cela. Nous sommes appelés à être des conquérants, peu importe le nombre d'années que nous avons de conversion. Ça fait combien de temps que vous êtes donné à Christ? Peu importe. Ça aurait beau faire une heure, vous êtes concernés. Dieu voudrait vous utiliser, vous faire l'honneur, la grâce de travailler au salut des autres. Et nous, on voit 9 rue Saint-Guilhem, l'église ADD de Toulouse-Saint-Agne. Peut-être que notre vision, c'est Toulouse. Peut-être que notre vision, c'est la France. Mais le Seigneur, il ne se cantonne pas à cela. Il dit, il y a le monde entier. Et nous, on ne pourra pas aller partout, ça c'est sûr. On ne pourra pas tout faire, c'est sûr. Mais on doit travailler à supporter tous ceux qui travaillent dans cette œuvre-là. On ne doit pas garder les yeux fixés sur nous-mêmes, mais avoir un regard beaucoup plus large. Dire, mais il y a le monde entier qui doit connaître. Est-ce que vous priez pour votre quartier, pour votre palier d'escalier seulement? Ou est-ce que vous avez aussi à cœur de prier pour ceux qui sont au bout du monde et qui sont persécutés pour leur foi, ou ceux qui ne connaissent pas l'Évangile puisque personne n'y est encore allé? Savez-vous qu'il y a encore des endroits où la Bible n'est pas encore traduite, n'est jamais allée, et des endroits où aucun homme n'a pu prêcher le nom de Jésus? Il y a encore ces endroits-là. Et peut-être quelqu'un dira, oui, mais moi j'ai d'autres soucis, j'ai d'autres préoccupations, Jérémie, tu sais pas là, je passe par des moments difficiles, je peux pas me préoccuper de tout ça. J'aimerais vous dire, laissez ces choses de côté, dans les mains de Dieu. Vous d'abord, occupez-vous de prier. Investissez-vous comme vous le pouvez, comme Dieu vous le mettra à cœur, dans ces choses-là. Et le Seigneur pourvoira à toutes choses. C'est ce qu'on a dit encore ce matin, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Le manger, le boire, les vêtements, ce que vous voulez. Ces choses, Dieu s'en occupe, il connaît nos besoins, il pourvoira à nos besoins. Vous avez une mission. Vous devez être des conquérants. Pas des guerriers pour tout tuer sur son passage. Des fois, on voit des chrétiens, « Oui, je suis de l'armée. » Il dit d'être une armée d'amour, une armée de paix, une armée de douceur, mais plein d'assurance. Vous êtes d'accord avec moi? Plein d'assurance. Mais pas pour détruire, mais pour sauver. Pas faire comme les disciples qui ont dit, est-ce que tu veux qu'on prie Dieu d'envoyer le feu du ciel pour punir ces gens qui n'ont pas voulu nous recevoir? Jésus va dire, non, je suis pas venu perdre les âmes, je suis venu les sauver. Je suis venu les sauver. Nous sommes tous concernés par cet appel. Acte 1-8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Tous ces enfants. Dieu veut qu'ils soient des témoins, des ouvriers dans sa moisson. Ce n'est pas réservé à une élite. Dieu a un plan, il veut nous rendre participants, mais si on ne veut pas, son plan s'accomplira pas quand même. Parce que l'Apocalypse, elle ne va pas changer en fonction de ce que je fais. L'Apocalypse demeure, la prophétie demeure. Mais si je ne travaille pas à cela, je vais passer à côté de l'essentiel de mon salut, du but de mon salut. Et je risque d'être déçu dans ma vie, de passer à côté de cette joie et de ce bonheur que Dieu veut me donner. Dans Ésaïe 54, il est dit « Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. » L'appel de Dieu, c'est qu'on grandisse, pas pour notre gloire, mais déjà pour que les gens soient sauvés, et puis pour la gloire de Dieu. Puisque toute gloire lui revient. Dieu a de l'ambition. Est-ce que Dieu a de l'ambition? Moi, je crois que Dieu a de l'ambition et peut se permettre, lui, d'avoir de l'ambition. Moi, je n'ai pas besoin d'avoir de l'ambition. Il y en a, ils ont de l'ambition, ils veulent que des grandes choses. On n'a pas à avoir de l'ambition. Dieu l'a pour nous. Nous, on a à avoir de la foi et de l'obéissance. Parce que quelquefois, l'ambition, elle cache de l'orgueil. On n'a pas à tomber dans l'orgueil. J'aime pas ce mot ambition. Dieu, lui, il en a de l'ambition, puisqu'il peut tout faire. Tout lui est permis. Tout est possible à Dieu. Moi, j'ai juste besoin d'avoir foi dans sa parole et de lui faire confiance. Le seul moyen de devenir un conquérant, c'est de soi-même être déjà conquis par Dieu. C'est hier, dans une prière, un frère qui s'est mis à prier, à louer le Seigneur plutôt, et à dire ceci: Seigneur, je veux conquérir par toi, toi qui m'as conquis. Et j'ai réfléchi à ça. Et je dis, mais c'est vrai qu'il est impossible que je gagne du terrain, que je travaille pour le Seigneur, que j'avance, que j'ai de la réussite dans l'œuvre de Dieu, dans mon travail pour le Seigneur. Moi qui suis devenu un disciple, si jamais je n'ai pas été d'abord conquis dans mon cœur à moi. Pour conquérir, il faut que je sois d'abord conquis moi. Il faut d'abord moi que je sois conquis. Et je vais vous poser une question. Conquis par quoi? Par Dieu, c'est bien, mais par quoi de spécial? Qu'est-ce qui va mettre une motivation dans mon cœur? Qu'est-ce qui va mettre un zèle dans mon cœur? Qu'est-ce qui va me donner la force de me lever le matin et de me coucher le soir avec toujours cette pensée que des âmes se perdent, que des âmes ont besoin de mes prières, que des âmes ont besoin d'entendre la parole de Dieu, que je leur donne un évangile, que je leur donne la Bible? Parce qu'il faut avouer que bien des fois on pense à nos soucis à nous et on oublie l'œuvre de Dieu. On pense à nos bobos à nous et on oublie le sort de tous ceux qui sont perdus. Qu'est-ce qui peut me redonner de la motivation? Qu'est-ce qui a fait que le premier jour où j'ai connu Jésus, j'ai été motivé? Qu'est-ce qui a touché mon cœur? Si ce n'est la croix. Est-ce que la croix a été plantée dans le terrain de ton cœur? Est-ce que la croix est comme une bannière plantée sur le territoire de ton cœur? Est-ce que la croix est toujours debout ou est-ce qu'elle a tellement été laissée à l'abandon qu'elle s'est écroulée? Est-ce que le message de la croix est toujours sensible à ton cœur? Est-ce que vous êtes toujours et je suis toujours ému devant le message de la croix et l'œuvre de Jésus à la croix? Je précise tout de suite une chose, Jésus n'est plus sur la croix. Jésus, il est mort mais il est ressuscité. Jésus a accompli une œuvre à la croix mais il n'est pas resté à la croix. Et quelquefois on dit « Oh, je veux pleurer à tes pieds à la croix ». C'est faux, il n'y est plus. Par contre, l'œuvre de la croix est toujours importante à mes yeux et pour moi. L'œuvre de la croix doit toujours m'émouvoir et plus que m'émouvoir, me motiver. L'œuvre de la croix doit être comme une bannière, un message qui me pousse à parler aux autres. Parce que Jésus, il n'a pas compté les heures. Lui, il n'était pas aux 35 heures, le Seigneur Jésus. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça nous motive à Michael et à moi, hein? On n'est pas embauché aux 35 heures à nous. Jésus, il n'a pas compté, il n'a pas dit « Oula, j'ai fait mon quota aujourd'hui. Hein. » La pointeuse, elle va râler. Il n'était pas à la pointeuse, Jésus. Jésus, il s'est donné entièrement, corps et âme. Il s'est donné pour nous. Et si je réalise encore la croix, l'œuvre de la croix, Jésus qui s'est donné pour m'épargner l'enfer, alors je vais être motivé. Si je suis toujours sensible à cette chose, à ce message, à cette œuvre, je vais avoir envie moi-même de participer à l'œuvre de Dieu. Êtes-vous toujours conquis? Aux États-Unis, qui ne s'appelaient pas encore les États-Unis, en Amérique, on va dire, du Nord, lorsque les premiers habitants d'Europe, on va dire, puisqu'il y en avait avant, hein, lorsque les premiers habitants d'Europe ont trouvé ce nouveau monde, comme ils l'appelaient, ils devaient conquérir le pays. Il y avait tellement de terres et si peu de personnes qui n'avaient même pas à vendre les terrains. Les terrains étaient gratuits. Et du coup, des gens, ça attirait du monde. Des gens faisaient le voyage à bateau, arrivaient sur place. Et puis, ils allaient au plus loin, dans les terres. Ils allaient conquérir le terrain. Et puis, ils arrivaient dans des endroits où ils voulaient établir des villes. Il y avait suffisamment d'eau, il y avait suffisamment de ressources sur place pour établir une ville et commencer un nouveau départ dans cette ville. Et des gens, attirés par la nouvelle, des terrains sont donnés gratuitement. Vous aimeriez qu'on vous donne un terrain en France? Qui voudrait pas d'un terrain gratuit? Personne. Quoique, il y a les taxes foncières, en vrai. Hein. Mais un terrain gratuit, Et vous savez comment ça se passait? Il disait, allez, tel jour, tout le monde vient là, à pied, à cheval, en charrette, comme vous voulez. Il y a tant de l'eau, les terres sont divisées comme ça, ça va partir de tel endroit à tel endroit. Il y a tant de l'eau. Vous allez partir avec une bannière, bâton avec un drapeau. Vous allez partir, il y a un numéro dessus qui correspond à votre personne. Et vous allez aller sur place, vous allez prendre votre cheval, votre charrette, le moyen que vous voulez, même à pied. Vous choisissez, vous allez visiter le terrain pendant tant de temps, et tel jour, à telle date, il y aura un départ, il y aura une trompette qu'on va sonner, ou un départ qui va être lancé, et puis tout le monde va partir. Et si vous arrivez le premier sur la terre que vous aviez choisie, elle est à vous. Intéressant. Mais du coup, ouais, il y avait tout le monde qui choisissait les meilleurs terrains, le meilleur endroit, et puis ils se battaient. Il y en avait même qui se tuaient pour avoir le terrain. Mais il y avait là le drapeau qui était planté, bam, la bannière qui était mise, et c'est bon, le terrain était à moi. Le terrain était à moi. Et pour devenir un conquérant, il faut que Jésus ait pu planter sa bannière dans notre cœur. Par son esprit qui nous est convaincu de péché, de justice, de jugement. Que le Saint-Esprit ait pu faire son œuvre, qu'on soit marqué par la croix. Souvent, on se fait baptiser parce qu'on a fait une expérience avec Jésus. Ou avec Dieu. J'ai été guéri. Du coup, je veux faire baptiser pour dire merci à Jésus. On ne se fait pas baptiser pour dire merci à Jésus. Si on veut dire merci à Jésus, on lui dit merci. Et ça lui suffit. On ne se fait pas baptiser pour dire merci. C'est pas parce que j'ai fait une expérience quelconque que j'avais des dettes, Dieu m'a donné un travail. C'est pas parce que j'ai fait une expérience comme ça. Un jour, j'ai demandé quelque chose, Dieu me l'a donné, du coup, je veux me faire baptiser. Ça ne tiendra pas. C'est pas ça qui va vous donner de tenir. Ce qui nous donne de tenir dans le temps, c'est l'œuvre du message de la croix dans nos cœurs. C'est l'action du Saint-Esprit qui confirme que Jésus est bien mort pour moi et pour toi, qui va faire que je vais tenir. Et si j'ai vraiment cette bannière qui est plantée dans mon cœur, je ne vais pas pouvoir faire autrement que moi aussi d'être motivé pour pouvoir aller parler aux autres, travailler à l'œuvre de Jésus. Et est-ce que quand on relit les évangiles, le parcours de la passion du Christ, le parcours de la croix, la mort de Jésus et sa résurrection, est-ce que je suis toujours ému dans mon cœur? Ou est-ce que ce passage, je l'ai tellement lu que je le saute? Ou est-ce qu'à chaque fois, je regarde comment Jésus a été maltraité, comment il a été opprimé, comment on s'est moqué de lui, comment on lui a planté une couronne d'épines, qu'est-ce qu'il a dit sur la croix? Père, pardonne-leur! On vient de prendre ses vêtements, de les déchirer, de déchirer des choses, mais sa tunique, non, on ne l'a pas déchirée, bien sûr. On vient de se moquer de lui, de lui dire des injures, des jurons. Même ceux qui sont à côté de lui, ils s'en prennent à lui. Les deux se moquent de lui. Il n'y en a qu'un, au bout d'un moment, qui a réfléchi. Et pourtant, il va dire, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Il va dire toutes sortes de choses étonnantes à la croix. Et puis, il va terminer en disant, tout est accompli. Tout est accompli. Jésus a tout accompli à la croix. Est-ce que je suis encore et toujours conquis par le message de la croix? 1 Corinthiens chapitre 1 verset 21 dit « Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication de la croix. » Amen. C'est par la prédication que Dieu a voulu sauver les hommes. Et pas n'importe quel message, celui de la croix. Et c'est ce même message qui va me pousser à agir. Jésus va dire plus tard, « Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. » Et j'ai bien dit, « Quiconque ne porte pas sa croix. » On n'a pas porté celle de Jésus. C'était le seul à pouvoir la porter. Celle-là. C'était le seul à pouvoir faire l'œuvre qu'il a faite ce jour-là. Par contre, chacun, on a une croix à porter. Oh, pas une croix impossible à porter, vous inquiétez pas. Dieu ne nous demande pas quelque chose qui nous est impossible. Dieu ne nous charge pas d'un fardeau trop lourd pour qu'on puisse avancer. Au contraire, il connaît nos capacités, il connaît nos forces et il est prêt à nous donner de nouvelles forces. Il connaît, il sait ce que l'on peut supporter. Il dit plus loin ou ailleurs, il dit... Dieu ne permettra pas d'épreuve qui ira au-delà de vos forces ou de votre foi. Dieu ne permettra pas de tentation qui ira au-delà de vos forces ou de votre foi. Dieu sait ce qu'on peut supporter. Mais à chacun, on a aussi reçu de devoir porter notre croix. C'est quoi la croix ? C'est pas un bout de bois. Ce n'est pas non plus des difficultés dans la vie. Cette croix, c'est ce fardeau pour les hommes qui va me pousser à l'abnégation, au renoncement à moi-même. Si jamais je ne renonce pas à certaines choses dans ma vie, non seulement au péché, moi je ne serai pas sauvé, mais si je ne renonce pas à certains conforts qui pourraient m'empêcher de servir Dieu, si je ne renonce pas à certaines libertés qui pourraient m'empêcher de servir Dieu, je passerai à côté de la volonté de Dieu. Et Jésus va loin et dit, vous ne serez pas mes disciples. Je prêche, et là je parle de quelque chose qui est dur à prêcher et qui est dur à entendre. Je ne vous dis pas que le confort c'est mauvais. J'ai précisé un confort qui m'empêcherait de servir Dieu. Combien de personnes, parce qu'ils aiment trop leur maison, ne partiront jamais en mission? Combien de personnes, parce qu'ils aiment trop leur portefeuille, ne donneront jamais pour des missionnaires? Combien de personnes aiment trop leur télévision au point qu'ils ne pourront pas aller à la réunion, intercéder, prier? Combien de personnes aimeront trop leur liberté pour laisser Dieu et Jésus être leur Seigneur et leur Maître dans leur vie? Vous comprenez ce que je veux dire? Et je ne le dis pas avec un doigt accusateur. Quelqu'un dira, quand je pointe un doigt, il y en a trois vers moi. Je me mets dans l'eau avec vous tous. Et combien de fois je regrette parce que je suis passé à côté. Une opportunité de parler, une opportunité de faire quelque chose, parce que j'étais pressé. J'avais quelque chose que je préférais. Mais le Seigneur il dit, pour pouvoir conquérir, accomplir la mission de Dieu, il faut que tu commences par toi-même être conquis par l'esprit de la croix. Premièrement, suis Jésus, celle de Jésus, mais aussi la tienne, celle que Dieu t'a demandé de porter. Et c'est comme un défi devant nos vies. C'est comme un défi devant chacun d'entre nous. Et je le dis avec le sérieux, avec vraiment sérieux et avec amour. Dieu a mis devant chacun d'entre nous une croix. Dieu a mis devant chacun d'entre nous une mission. L'évidence, le tableau des âmes qui partent en enfer. Il nous a mis dans un travail, il nous a mis dans un foyer, il nous a mis dans un pays, il nous a mis dans une situation où nous pouvons parler, mais où nous avons aussi le choix de parler ou pas. Où nous avons le choix de rendre un bon témoignage ou pas. Où nous avons le choix de laisser Jésus en premier dans notre vie ou de laisser beaucoup d'autres choses prendre la place qui revient à Dieu et à Jésus-Christ. C'est pas facile. J'aurais pas envie de parler de ça cet après-midi. Mais ce que Dieu a mis sur mon cœur, je veux le dire. Vous le comprenez? Dieu interpelle l'assemblée cet après-midi. Et il nous dit à chacun, il y a une mission devant toi. Je t'appelle à être un conquérant. Je t'appelle à être quelqu'un qui parle de moi. Je t'appelle à être quelqu'un qui annonce l'évangile. Tu te sens pas évangéliste? C'est normal. Par tes forces, tu peux rien faire. Tu ne te sens pas prophète, c'est normal. De toi-même, tu n'en as pas la capacité. Tu ne te sens pas, c'est normal. Laisse-moi faire. Donne-moi ta vie, laisse-moi libre. Renonce à toi-même. C'est Jésus qui l'a dit. Renonce à toi-même. Laisse-moi les rênes de ta vie, les rênes de ton cœur. Et tu auras une joie que le monde ne connaît pas. Celle d'accomplir la volonté de Dieu. Celle de voir au travers de l'œuvre de Dieu en toi, des âmes se donner au Seigneur. Et dernièrement, un jeune homme me racontait ça en pleurant. Il me disait, mais Jérémy, Je me suis retrouvé à parler à un collègue de travail et sans que je fasse rien du tout, il s'est mis à me déballer sa vie, sa souffrance et son envie de se suicider. Et moi, je me suis retrouvé devant ça, ma timidité et cette volonté de lui parler de ce que je connaissais du Seigneur Jésus. J'étais devant ce choix et j'ai eu un combat dans mon cœur. Puis au bout d'un moment, j'ai dit, allez, tant pis, je vais lui parler. Il a ouvert sa bouche, il ne savait pas trop quoi dire, et puis Dieu l'a aidé à dire quelques mots maladroits, mais quelques mots quand même. Et cet homme s'est mis à pleurer encore, à pleurer, et à lui dire, mais ça me touche ce que tu dis. Et le jeune qui me parlait, il m'a dit, mais je lui ai proposé une Bible. Et tout ça, c'était malgré moi, je ne m'attendais pas, et il a accepté, il m'a dit, oui, je veux une Bible, ça fait des années que j'en veux une, j'en trouve pas. Il lui a amené une Bible et cet homme a été touché, a dit mais merci, merci. Et ce jeune homme, il me racontait, il me dit mais en pleurs, il me dit mais combien de fois je suis passé à côté? Combien de fois? Alors que Dieu voulait m'utiliser. Et qu'est-ce que je suis heureux d'avoir pu servir Dieu. Quelle joie! Quelle joie d'avoir pu servir Dieu. Et il était dans une joie, il pleurait pas de tristesse. Il pleurait surtout de joie d'avoir accompli la volonté de Dieu. Et d'avoir été utile dans les mains de Dieu. Il n'y a pas de plus grande joie que de servir le Maître. Vous le saviez ça? Vous croyez qu'un bon film au cinéma c'est bien? Mais il y a 100 fois mieux, 1000 fois mieux. Vous croyez que de gagner au loto c'est bien? C'est des pacotilles à côté de savoir qu'une âme a été arrachée à l'enfer. Vous croyez que rencontrer une épouse, une fiancée ou un fiancé c'est bien? Vous imaginez même pas ce que c'est que la joie d'avoir pu parler à quelqu'un et de le voir pleurer sur son péché, ou pleurer de joie parce qu'il rencontre la bonne nouvelle. Et vous vous sentirez jamais digne. Si vous vous sentez digne, c'est l'orgueil qui vous gagne et Dieu va vous aider à vous l'enlever. Mais travaillons pour le Seigneur. Quelques exemples avant de terminer. Celui qui m'est venu, j'en ai parlé tout à l'heure, Paul. Au début, il travaillait pour Dieu avec ses forces. Ses forces, il luttait contre Jésus, contre la bonne nouvelle de Jésus, contre le message de l'évangile. Et puis un jour, sur le chemin de Damas, Dieu l'a rencontré, Jésus l'a rencontré, il est tombé, il a été terrassé, il a été conquis. Et c'est alors qu'il est devenu le plus grand des conquérants des apôtres, celui qui a conquis l'Asie tout entière, un continent. Un continent a été évangélisé par un homme qui a été conquis par le Seigneur Jésus. Par le message de la croix. Il dit, je ne veux pas savoir autre chose que Christ et Christ crucifié et ressuscité. Rien d'autre. Il dira, dans Philippiens 3:8, même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à la moitié de ma vie. Ah, j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de conquérir, de gagner Christ. Il y a besoin de le gagner, de le mériter, Christ? Non. Il nous sauve. Il est notre sauveur. Il veut être notre Seigneur. Mais pour qu'on puisse gagner Christ, c'est-à-dire gagner comme Christ gagnait, eh bien, il faut se laisser conquérir par lui. Et il faut renoncer au reste. Renoncer, ça ne veut pas dire tout brûler, tout jeter, tout donner. Renoncer, ça veut dire être prêt à n'avoir que Jésus. Que ce soit la chose la plus importante, la personne plutôt, la plus importante. Philippe, c'était pas un pasteur, c'était pas un apôtre. Philippe, c'était un chrétien comme vous et moi. C'est simplement quelqu'un qui était dans l'assemblée, qui avait compris qu'il avait une œuvre à faire dans l'assemblée. Il a voulu donner à manger aux tables, servir les veuves. À nos yeux humains, c'est pas le plus grand des services, mais lui, il avait déjà compris ça. C'est que le moindre des services est important aux yeux de Dieu. Il y avait un besoin, il a répondu. Il était déjà un homme rempli de sagesse d'Esprit Saint. Et puis, il s'est mis à travailler pour le Seigneur. Et un jour, il s'est retrouvé dispersé à cause de la persécution. Et puis, en Samarie, il s'est mis à prêcher l'évangile. Et il y a eu un grand réveil à cause de son message. Il s'est mis à parler de la part de Dieu. Quelqu'un comme vous et moi, quelqu'un de tout à fait commun, qui a simplement pris au sérieux le message de la croix. Il s'est laissé conquérir par Christ, il l'a annoncé, et Dieu a béni ce qu'il a fait, c'est dans Actes 8. Jacob a été blessé à l'ange. Quand il a été blessé, conquis par Dieu, vaincu, alors il a pu avoir une vie différente, Genèse 32. Jonas, il était conquis par le poisson, lui. Il voulait pas, timide ou bien orgueilleux, on ne sait pas trop la raison, hein. Mais il fuyait, il voulait surtout pas faire l'œuvre de Dieu. Dieu, on va te vaincre. 3 jours dans le poisson. Et puis il en est sorti, et il a pu voir à cause de lui, au travers de lui en tout cas, le plus grand de tous les réveils que l'humanité ait connu. Ninive, des centaines de milliers de personnes en une nuit qui se sont repenties. Pierre, qui par ses forces, lui, il voulait défendre Jésus, il a coupé même l'oreille du soldat qui était là. Jésus dit non, il prend l'oreille, il la recolle, il guérit l'oreille. Et puis Pierre va passer par un moment où il va être vaincu. Son orgueil, tu vois, toi qui te prends pour, son orgueil va être mis à mal. Il va renier le Christ 3 fois. Mais voyez, quand on est vaincu par Dieu, Dieu nous relève, puisque juste après, il nous est dit que Jésus lui dit d'être un pasteur. Paix mes agneaux. C'est ça que ça veut dire. Paix mes agneaux. Caïn et Abel, dernier exemple que je prendrai. Caïn et Abel, il y en a un, il fait une offrande, des légumes. Il veut servir Dieu comme il veut. Comme il veut. Lui, il n'a pas bien réagi. Il ne s'est pas laissé conquérir par le Seigneur. Alors que son frère fait la bonne offrande, il offre le premier-né de son troupeau. C'est approuvé par Dieu. Lui, il se met à avoir de la jalousie. Vous savez que quand on ne se laisse pas conquérir par le Seigneur, quand la croix ne nous fait plus rien, qu'est-ce qu'on fait? On commence à être jaloux. On commence à être jaloux parce que nous, on commence à s'aigrir. Quand il n'y a plus la croix qui est là, dans notre cœur, on commence à s'aigrir, on commence à être jaloux, on commence à critiquer, on commence à en vouloir aux autres, on commence à s'isoler, etc., etc. Et Caïn est allé vers son frère, il l'a tué. Malgré le fait que Dieu ait voulu lui parler, il n'a pas écouté, il a continué. Et ça a été à sa perte puisqu'il a été vagabond tout le restant de ses jours. On ne veut pas être des chrétiens vagabonds, on veut être des chrétiens conquérants. Que là où on passe, on laisse la bonne odeur de Christ après nous. Avez-vous envie, avez-vous à cœur de laisser une bonne odeur derrière vous? Je vais le dire parce qu'il n'est plus là. Je fais confiance à son frère pour ne pas lui répéter. Quand on sortait dans les rues voir ses filles, il y avait Nathanaël Koudougou, pour ceux qui l'ont connu, qui était là. Et avant que moi-même j'y aille, lui, il était avec Monsieur Galifou et l'équipe. Et quand il sortait, il se souvenait de chacun des prénoms des filles qui étaient dans la rue. Hallucinant. Il n'y avait que lui qui y arrivait. Il se souvenait du prénom des filles et du prénom des enfants. J'ai essayé, j'y arrive pas. La grâce de Dieu. Et puis il disait, j'ai prié pour toi. J'ai prié pour tes enfants. Et dès qu'il les voyait, il réfléchissait, dis-toi, c'est... Hop, et il disait le prénom. Pourtant, il les voyait que quelques minutes dans la nuit. Et à chaque fois, les nouvelles, il s'en souvenait. Et puis, comme ça, il passait. Et puis, vous savez, il est assez grand, il est remarquable aussi. Et le jour où il n'a plus pu y aller, puisqu'il y a eu Castres, et puis il y a eu aussi surtout son départ à Rodez, quand nous on sortait, toutes les filles qu'il avait déjà rencontrées, toutes, elles disaient, mais il est où celui-là? Il est où? Vous savez, le grand, là. Le grand. Il est où? Et ce qu'ils l'ont touché quand on leur demandait, ils se souvenaient de mon prénom. Ils se souvenaient de moi. Ils se souvenaient de mes enfants. Et ils priaient pour moi. Ils laissaient la bonne odeur de Christ. Qu'on puisse être ces conquérants-là. Des hommes, des femmes, même si on n'est que de passage dans un endroit qui laisse la marque du Saint-Esprit. Comme l'Esprit s'est comparé à l'huile, comme de l'huile qui tache de la moquette. Les femmes, elles savent que ça ne s'enlève pas. Ça a du mal à s'enlever. De l'huile qui tâche, pas de l'eau, des belles paroles, hein, de l'eau qui tâche et puis qui s'évapore, mais l'huile. L'eau et l'huile, l'Esprit de Dieu. Que Dieu puisse faire de nous des conquérants en ayant la victoire sur nos vies et sur nos cœurs. Soyons prêts à perdre, parce qu'en Christ, on gagnera bien plus que ce à quoi on aura renoncé. Amen. Celui qui est prêt à perdre sa vie sur la terre, la gagnera et la retrouvera dans le ciel. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, à quoi servirait-il à gagner le monde si on viendrait à perdre son âme ? nous qui avons gagné notre âme, nous qui avons réussi à avoir notre âme sauvée, nous pouvons maintenant nous mettre à gagner le monde. Ce n'est pas une parole pour nous, ce n'est une parole pour ceux qui ne sont pas encore à toi. Mais nous, tu nous demandes d'aller par tout le monde prêcher la bonne nouvelle, pour qu'il y ait des gens de toute nation, de toute ethnie, de tout peuple, de toute langue. C'est là ta mission, Seigneur, l'ordre de mission. C'est là aussi ce qui va se passer le jour où tu reprendras ton assemblée. Et nous voulons avoir accompli ce que tu nous as demandé. Nous ne voulons pas avoir à rougir le jour où tu distribueras peut-être des récompenses aussi, le jour où tu nous prendras chacun, où nous passerons devant le tribunal de Christ. Oui, Seigneur, nous voulons être là, ayant accompli des choses par toi, ou toi par nous plutôt, Seigneur. Oui, avoir été de simples canaux qui n'empêchaient pas ton onction, ton œuvre de se faire au travers de nous. Permets à cette assemblée de réaliser que tu nous appelles à être des conquérants, que chacun nous avons à parler de toi dans nos quartiers, dans nos, chez nos voisins, à nos collègues de travail, à nos enfants, à nos parents, pour qu'ils puissent s'approcher de toi. Nous avons tous à les inviter à l'assemblée, Seigneur, pour qu'ils puissent entendre ta bonne nouvelle. Nous avons tous à leur apporter la parole s'ils ne veulent pas venir jusqu'ici. Nous avons tous notre part, et que les messages que nous entendons dans ce lieu puissent être répétés au-delà, Seigneur, de ces murs, jusque dans les maisons, jusqu'en dans les foyers, dans les rues, Seigneur, dans les travails, de partout, Seigneur, avec sagesse, certes, mais surtout avec assurance. Que ton nom soit béni, Seigneur, pour ta parole qui nous enseigne à toujours aller de l'avant, à toujours vouloir gagner du terrain, à étendre la toile de nos tentes, Seigneur Jésus. Oui, ton royaume doit s'accroître, puisque le temps est court, Seigneur Jésus. Par nous-mêmes, nous ne pouvons rien, mais par toi, tout est possible, Seigneur. Donne-nous de la foi, renouvelle notre foi, toi le chef et le consommateur de la foi, Jésus, en nous donnant des métaparoles, Seigneur, et aussi donne-nous de l'obéissance pour pouvoir faire ce que tu nous as demandé de faire. Que ton nom soit glorifié. Amen.